Chapitre 2. La femme de chambre, en ouvrant les volets de l'appartement de Catherine à 8 heures du matin, l'éveilla en sursaut. Celle-ci ne concevait pas qu'elle eût pu dormir. Cependant, son feu brûlait déjà, un ciel serein avait succédé à l'orage de la nuit. Sa première pensée fut pour son manuscrit. Aussitôt que la femme de chambre fut sortie, elle s'élança hors de son lit et s'empressa de réunir les feuilles éparses qui s'étaient détachées du rouleau lorsqu'il était tombé à terre, puis elle se remit au lit pour lire tout à son aise cet intéressant manuscrit. Elle s'aperçut d'abord que celui-ci n'était pas du même genre que ceux dont elle avait vu la description dans les romans. Le rouleau paraissait n'être composé que de petites feuilles détachées, dont quelques-unes étaient légèrement réunies, et elle n'était pas en aussi grand nombre qu'elle l'avait cru la veille. Elle porta vivement ses regards sur la première feuille. Elle fut frappée de surprise, elle s'arrêta, ne pouvant croire qu'il fût possible d'y trouver ce qu'elle voyait. Ses yeux la trompaient sans doute. Un mémoire de linge, en caractère moderne et grossièrement tracé, voilà ce qui remplissait cette feuille. Si elle est réduite à en croire l'évidence, elle est forcée de reconnaître que c'est le mémoire d'une blanchisseuse qu'elle tient à la main. Elle saisit une autre feuille, elle y trouve les mêmes articles, à quelques variations près. Une troisième, une quatrième, une cinquième ne lui offrent plus la même chose. Un inventaire de chemises, de bas, de cravates et de bonnets s'y trouvait inscrit dans le plus grand détail. Deux autres feuilles, toujours écrites par la même main, portaient des articles non moins intéressants, de la poudre, des cordons de souliers, des boutons, etc. La plus grande feuille, celle qui enveloppait toutes les autres, contenait la recette d'un cataplasme de châtaigne, ensuite le nécessaire d'un maréchal. Telle était la collection des écrits précieux, laissés sans doute par la négligente de quelques servantes dans le lieu où ils se trouvaient, et qui, pendant une grande partie de la nuit, avait causé tant de troubles et d'impatience à Catherine. À cette découverte, elle fut cruellement humiliée. Comment l'aventure du coffre ne l'avait-elle pas rendue plus sage? La partie qu'elle en apercevait de son lit semblait s'élever contre elle pour lui faire des reproches. Elle se cachait les yeux. Maintenant, rien ne lui paraissait plus absurde que de se livrer, comme elle l'avait fait, à son imagination, que de supposer qu'un manuscrit fût placé depuis plusieurs années dans une chambre si moderne, qu'il y fût resté inconnu, qu'elle eût été la première assez habile pour ouvrir un cabinet auquel tenait la clé. Combien elle s'était elle-même abusée ! Fasse le ciel que Henri ne sache rien de cette sottise ! Elle en rejetait toutefois en grande partie la faute sur lui. Si ce cabinet n'eût pas autant ressemblé à celui dont il lui avait fait la description, aurait-elle jamais eu la curiosité de l'ouvrir? Elle n'avait d'autre excuse à se donner à elle-même. Empressée de faire disparaître ces honteux témoignages de sa folie, elle rassembla ses odieux papiers épars sur son lit, se leva de suite et les arrangea autant qu'il lui fut possible, de la même manière et de la même forme qu'elle les avait trouvés, et elle les replaça dans le même endroit où elle les avait pris, avec le souhait bien sincère qu'aucun méchant événement ne les représenta jamais à ses yeux. Elle ne concevait pas comment elle avait d'abord eu autant de peine à ouvrir une serrure qu'elle faisait maintenant jouer si facilement. Sans doute, il y avait là quelque chose de mystérieux. Pendant une demi-minute, l'idée que la clé pouvait être enchantée lui passa par la tête. Mais elle en rougit jusqu'au blanc des yeux. Aussitôt qu'elle fut prête, elle sortit de sa chambre où sa conduite lui faisait faire tant de réflexions humiliantes. De là, elle se rendit à la salle du déjeuner d'après l'invitation que Miss Tilney lui avait faite la veille. Henri y était seul. Il lui demanda si le mauvais temps de la nuit ne l'avait pas empêché de dormir, si le bruit du vent qui s'engouffrait dans ce grand bâtiment ne l'avait pas incommodé. Cette simple question la troubla. Elle redoutait par-dessus tout de lui faire naître le moindre soupçon sur la faiblesse qu'elle avait eue. Néanmoins, elle se vit forcée d'avouer que le vent l'avait souvent éveillée. « Mais, dit-elle, tempête et insomnie ne sont rien quand elles sont passées. Nous avons une matinée charmante. » Puis, pour éloigner totalement ce redoutable sujet, elle ajouta « Quelle belle jacinthe vous avez là! J'ai depuis peu appris à les aimer. » « Comment l'avez-vous appris? Est-ce par hasard ou par réflexion ?»« C'est de votre sœur que je tiens ce goût. Je ne puis dire comment elle me l'a donné. Chaque année, Miss Allen prenait beaucoup de peine pour me l'inspirer, mais c'était inutilement. Il ne m'est venu que depuis peu en Milsom Street. Je suis naturellement fort indifférente pour les fleurs. » « En voilà déjà une que vous aimez maintenant. C'est pour vous une source nouvelle de jouissance. Autant que possible, il faut saisir toutes celles qui peuvent ajouter au bonheur. D'ailleurs, le goût des fleurs convient à votre sexe. C'est un moyen de vous obliger à prendre plus fréquemment un exercice salutaire. Quoique votre goût se borne aux jacinthes, il pourra développer en vous un sentiment qui vous fera parvenir à aimer jusqu'à la rose. » Je n'ai pas besoin de ce motif pour sortir et prendre de l'exercice. Le plaisir de la promenade, celui de respirer un air vif, me suffisent pour cela. Quand il fait beau, je suis dehors plus de la moitié de la journée. Maman dit que je ne reste jamais en place. C'est bien, je vois avec plaisir votre goût pour les jacinthes. Vous l'avez contracté subitement sur ce que vous a dit ma sœur. Cela montre en vous une docilité qui est une qualité bien précieuse pour une jeune personne, et de plus, le désir d'apprendre, autre qualité non moins essentielle. Mais trouvez-vous en ma sœur celle qu'il faut pour bien vous instruire ? Catherine ne savait guère que répondre. Elle fut tirée d'embarras à temps par l'arrivée du général, dont l'air gracieux annonçait la bonne humeur. Malheureusement, il ne sympathisait pas beaucoup avec les autres. Aussi, sa bonne humeur ne se transmit-elle pas à la société. La beauté des porcelaines que l'on servit au déjeuner frappa Catherine. Elle en fit la remarque. Comme elles étaient du choix du général, il fut enchanté qu'elle fît ainsi l'éloge de son goût. Il convint qu'elles étaient belles, quoique simples et de fabriques anglaises. Il dit qu'il pensait qu'on devait encourager les manufactures de son pays, que, quant à lui, son goût était aussi agréablement flatté lorsqu'il buvait du thé dans une tasse d'argile de Staffordshire, que s'il le prenait dans une tasse de porcelaine de Dresde ou de Sèvres, que pour sa porcelaine, c'était un vieux service acheté depuis 2 ans, que ce temps avait suffi pour apporter un grand perfectionnement dans ses objets de luxe, qu'il en avait vu de superbes échantillons au dernier voyage qu'il en avait fait à la ville, que s'il n'avait pas été attaché au sien, il aurait été tenté d'en commander un autre, qu'il reconnaissait à la vérité que, dans quelque temps, il pouvait arriver une circonstance qui l'engagerait à en acheter un nouveau, que toutefois ce ne serait pas pour lui. Catherine fut probablement la seule de la société qui ne comprit pas ce qu'il voulait dire. Peu de temps après le déjeuner, Henri quitta la compagnie pour se rendre à Woodstow, où des affaires nécessitaient sa présence pour 2 ou 3 jours. On passa dans le vestibule pour le voir monter à cheval et, immédiatement après son départ, on rentra dans la salle à manger. Catherine s'approcha de la fenêtre dans l'espérance de le voir encore quelque temps. « Il est désagréable, dit le général à sa fille, que votre frère ait été obligé de se rendre aujourd'hui à Woodstone. Il me semble qu'il le trouvera bien triste. »« Est-ce un joli endroit ? » demanda Catherine. « Qu'en dites-vous, Éléonore ? Votre opinion sera, pour Miss Morland, préférable à la mienne. Une dame s'en rapporte plus volontiers à une autre dame qu'à un autre homme. Je crois cependant qu'aux yeux même les plus indifférents, Woodstone n'est pas sans quelque mérite. La maison est tournée au sud-est. Il y a devant un superbe jardin potager. De belles prairies entourent l'enclos, dont les murs ont été soigneusement construits par moi il y a 10 ans. Il formera le bénéfice de mon fils. C'est un bien de famille, Miss Morland. Les améliorations sont toutes mon ouvrage. Vous ne sauriez croire combien j'ai pris de peine pour l'entretenir en bon état. » quand la fortune de Henri devrait être bornée aux revenus de ce bien, mon fils ne serait pas malheureux. Il paraîtra peut-être étrange que, n'ayant que lui et deux autres enfants, j'ai cru nécessaire de lui faire embrasser un genre de vie dont les occupations, à notre grand regret, sont pénibles et néanmoins nécessaires. Je n'ose me flatter que de jeunes dames soient de mon avis sur ce dernier point. Mais je suis sûre, Miss Morland, que monsieur votre père pense comme moi et qu'il croit très utile pour les jeunes gens qu'ils soient dans la nécessité de s'occuper. L'argent n'est rien. Ce n'est pas pour en procurer que je désire voir un état à un jeune homme, mais pour lui apprendre à le dépenser convenablement. Vous voyez que j'en agis de même avec Frédéric. Il est à espérer une des plus belles propriétés du pays. Eh bien, malgré cela, il a une profession. » Ces raisonnements furent approuvés par le silence que gardèrent les jeunes personnes, attendu qu'elles n'avaient rien à leur opposer. Il avait été question, la veille au soir, de faire voir à Catherine l'intérieur de la maison. Le général, qui s'en souvint, lui proposa d'être son conducteur. Elle aurait bien souhaité faire cette visite seule avec Miss Tilney, mais la proposition était trop gracieuse pour qu'elle ne l'acceptât pas avec un empressement égal au désir qu'elle avait de connaître cette maison. Le panier à ouvrage fut promptement fermé et joyeusement placé dans le tiroir, et dans l'instant, Catherine fut prête à suivre le général, qui lui promit qu'après lui avoir fait voir la maison, il la conduirait dans les jardins et dans les bosquets. « Peut-être, ajouta-t-il, serait-il plus agréable à Miss Morland de commencer par visiter l'extérieur. Le temps est beau, dans cette saison il varie souvent. Je voudrais savoir le goût de Miss Morland. Allons, Éléonore, dites-moi ce qui fera le plus de plaisir à votre amie. Mais je m'en doute, je lis dans ses yeux qu'elle préfère profiter de ce beau soleil. Cela prouve sa prudence. L'abbaye sera toujours là, nous pourrons la voir dans tous les temps. Je vous obéis, permettez que j'aille prendre mon chapeau, je reviens à l'instant. » Il sortit, et Catherine, avec un visage triste et d'un air d'impatience, commençait à exprimer combien il est désagréable d'avoir l'air de faire avec plaisir ce que l'on faisait malgré soi, lorsque Miss Tilney l'arrêta en lui disant avec douceur « Je crois aussi qu'il est plus sage de profiter du beau temps et de ne pas déranger les habitudes de mon père qui va toujours se promener à cette heure du jour. » Catherine ne pénétra pas l'intention de Miss Tilney. Il lui sembla que celle-ci avait un air embarrassé. Elle soupçonna un peu de mauvaise volonté de la part du général, de ce qu'il ne lui montrait pas d'abord l'abbaye après le lui avoir proposé. N'était-il pas ridicule à lui d'être astreint de faire sa promenade si régulièrement à la même heure? Ce n'était pas ainsi qu'en agissaient son père et M. Allen. C'était une véritable contrariété pour elle qui avait envie de voir l'abbaye et non ses dépendances. Si Henri était là, à la bonne heure! Mais sans lui, comment connaîtrais-je ce qui est réellement pittoresque ou non? Telles étaient ses pensées. Elle n'en témoigna cependant rien et mit son chapeau avec une triste résignation. Elle fut frappée de l'étendue de l'abbaye qu'elle voyait pour la première fois à l'extérieur. C'était un très grand bâtiment carré, placé au milieu d'une vaste cour. Deux des côtés de ce carré étaient décorés d'ornements gothiques, riches et dignes d'être admirés. Du côté du nord, de grands et superbes arbres, plantés depuis des siècles, étalaient le luxe d'une belle végétation et faisaient admirer leurs nombreuses et fortes branches qui n'étaient pas encore parées de feuilles. Ils s'élevaient en forme d'amphithéâtre et garantissaient l'habitation des vents froids. Ils embellissaient le paysage. Catherine n'avait jamais rien vu de comparable. Elle en éprouva un plaisir si vif qu'elle se livra d'elle-même à l'admiration et à l'éloge. Le général l'écoutait avec une sorte de reconnaissance, comme s'il n'avait pas eu jusqu'alors d'opinion fixée sur Northanger et qu'il lui eût été utile de connaître celle de Catherine pour le déterminer dans ses idées. Ils se rendirent dans le parc. Le terrain que renfermait cet enclos était si vaste que Catherine ne put apprendre sans étonnement le nombre de verges qu'il contenait. C'était bien plus que le double de tout ce que possédaient ensemble son père et M. Allen, en y comprenant même les jardins et les vergers du bénéfice. Les murs s'étendaient à perte de vue et renfermaient dans leur enceinte divers bâtiments, des bains, des serres chaudes, des fabriques de différentes espèces et toutes utiles. Un temple était élevé au milieu. Tout cet assemblage représentait assez bien un village avec sa paroisse. Le général jouissait de la surprise et de l'admiration de Catherine. On ne pouvait louer plus sincèrement qu'elle ne le faisait. Elle répétait sans cesse qu'elle n'avait jamais vu une aussi belle habitation. Il répondait avec une feinte modestie qu'il n'avait aucune prétention à ce sujet, que c'était sans ambition qu'il s'était plu à l'embellir, qu'il n'avait suivi que son inclination et son goût, qu'il convenait néanmoins qu'il ne croyait pas qu'il y eût une plus belle habitation dans tout le royaume. C'était sa jouissance, il aimait les jardins. Quoiqu'indifférent sur la qualité des aliments, il cherchait à avoir les meilleurs fruits pour ses enfants et pour ses amis. « Il y a cependant aussi, disait-il, de grands inconvénients attachés à la possession d'un jardin comme celui-là. Les plus grands soins ne sont pas toujours suffisants. Je n'ai pas eu l'année précédente un fruit qui soit venu en pleine maturité. Je suppose que M. Allen a aussi à souffrir, ainsi que moi, de ses contretemps. » « Pas du tout, dit Catherine. M. Allen ne prend aucun soin de ses jardins. Il n'y va jamais. » Le général dit, avec un sourire de satisfaction, qu'il voudrait pouvoir faire de même, car il n'allait jamais dans les jardins sans être contrarié d'une manière ou d'une autre par la vue de ce qui manquait ou de ce qu'on arrangeait. « M. Allen a sans doute une serre. » « Monsieur Allen n'en a qu'une petite pour placer en hiver les plantes qu'aime Mistris. Pour lui, il ne s'en occupe pas. »« Heureux mortel !» dit le général avec un sourire ironique. Ayant conduit Catherine partout, dans toutes les différentes parties du parc, le long de tous les murs, autour de tous les bouquets d'arbres, le long de tous les canaux, jusqu'à ce qu'elle fût fatiguée de regarder, d'admirer, il consentit à ce que les deux jeunes misses reprissent le chemin de la maison en leur demandant la permission de les laisser aller seules parce qu'il avait à visiter des réparations qu'il faisait faire à celles de ses serres où il cultivait l'arbre à thé. Il leur eût proposé d'y aller avec lui s'il n'eût craint que Miss Morland ne fût trop fatiguée. « Quel chemin prenez-vous donc, Éléonore ? Pourquoi choisissez-vous un sentier triste et sombre ? « Il sera trop humide pour Miss Morland. Il vaudrait mieux traverser le parc. »« C'est ici ma promenade favorite, » dit Miss Tilney. « J'ai toujours trouvé que cette allée était la meilleure et la plus propre. Il est possible qu'elle soit un peu sombre. » C'était un sentier étroit et tournant, pratiqué dans la partie touffue d'un petit bois. Attiré par l'obscurité même de ce sentier, Catherine mourait d'envie de s'y engager, malgré l'avis du général, qui, voyant le désir qu'elle avait, lui fit encore, mais inutilement, quelques sages observations sur le danger auquel elle exposait sa santé. Il était trop poli pour insister quand il vit qu'il ne gagnait rien. Il les quitta donc en leur disant que, pour lui, il voulait profiter des rayons bienfaisants du soleil, qu'il les rejoindrait toutes deux plus loin. Dès qu'il se fut éloigné, Catherine se sentit tellement soulagée qu'elle s'en fit une espèce de reproche. Mais le plaisir dissipa bientôt cette légère impression et ce fut très gaiement et presque en courant qu'elle parla de la délicieuse mélancolie que ce lieu devait inspirer. « J'aime particulièrement cette promenade, » dit Miss Tilney avec un soupir, « parce que c'était celle que ma mère préférait. » Jusque-là, Catherine n'avait jamais entendu parler dans cette famille de Mistress Tilney. Le vif intérêt que cette phrase lui inspira devint visible dans toute sa personne. Le silence dans lequel elle resta pendant quelques minutes semblait montrer qu'elle attendait ce que pouvait ajouter son amie, qui reprit à la fin. « Je suis habituée à venir ici souvent avec elle. Alors j'aimais peu ce lieu. » J'y venais uniquement parce qu'elle m'y conduisait. Maintenant, j'y viens parce qu'il me rappelle le souvenir de cette tendre mère. » Par la même raison, pensa Catherine, Monsieur Tilney ne devrait-il pas y venir aussi? Et il ne veut pas seulement y entrer. » Miss Tilney gardait le silence. Catherine se hasarda de lui dire « La mort de votre mère a été un bien grand malheur. »« Un bien grand. Chaque jour, il le devient encore davantage, » répondit-elle à voix basse. « Je n'avais que 12 ans quand il arriva, et quoique je sentisse ma perte aussi vivement qu'on pouvait le faire à cet âge, je ne connaissais pas, je ne pouvais pas connaître toute son étendue. » Elle s'arrêta quelques minutes, puis reprit avec plus de fermeté. « Vous savez que je n'ai point de sœur. Quoique Henri ainsi que mon autre frère m'aime beaucoup et que le premier reste avec moi le plus qu'il peut, cependant il est impossible que je ne sois pas seule souvent. Je sens tout ce que cette perte a de cruel pour vous. On est toujours avec sa mère, c'est une bonne et véritable amie. Son influence dirige notre sort. » Était-elle bien belle? Y a-t-il quelqu'un de ses portraits à l'abbaye? Pourquoi aimait-elle tant ce lieu? Qu'est-ce qui a causé sa maladie? Telles furent les questions que Catherine fit sans interruption et presque sans réflexion. Miss Tilney répondit affirmativement aux deux premières. Sur les autres, elle garda le silence. Ce qui ne fit qu'augmenter l'intérêt que Catherine ressentait déjà pour Mistress Tilney. Elle regarda comme certain que le mariage de celle-ci l'avait rendue malheureuse, que le général avait été un mauvais mari. Il n'aimait pas la promenade qu'aimait son épouse, cela ne montrait-il pas qu'il l'aimait peu elle-même? Quoiqu'il fût un bel homme, ne portait-il pas dans ses traits quelque chose qui semblait dire qu'il ne l'aimait pas? « Le portrait de votre mère, » dit-elle en rougissant de la multiplicité de ses questions, « est sans doute dans l'appartement de votre père ?»« Non, il avait été fait pour être placé dans le salon, mais mon père en a été mécontent et il n'a pas voulu qu'il y fût placé. Après la mort de ma mère, je l'ai demandé, il m'a été accordé. Il est placé dans ma chambre à coucher, je vous le ferai voir volontiers, il est très bien. » Autre preuve pour confirmer Catherine dans l'opinion qu'elle a prise. Un portrait bien ressemblant d'une femme morte, et le mari ne le conserve pas. Il faut qu'il ait été épouvantablement méchant avec elle. Elle n'essaya pas longtemps de combattre en elle-même la nature des sentiments que le général lui inspirait. Malgré les attentions excessives qu'il montrait, ce qui n'avait d'abord été que de la crainte et de l'éloignement devenait maintenant de l'aversion. Oui, de l'aversion. La cruauté qu'il avait eue pour une aussi charmante femme devait le rendre odieux. Elle avait souvent trouvé de semblables caractères dans les romans. M. Allen lui avait bien dit qu'ils étaient hors de la nature et de pure imagination. Celui du général prouvait qu'il en existait réellement de tels. Elle s'arrêtait à ses idées quand elle se trouva à l'extrémité du sentier, précisément en face du général qui les attendait. En dépit de sa vertueuse indignation, elle fut obligée de prendre son bras qu'il lui offrit, de l'écouter, de lui répondre et même de sourire lorsqu'il souriait. Dans la situation où elle était, aucun des objets qui l'environnaient ne pouvait plus lui inspirer d'intérêt. Elle sentit et elle laissa voir qu'elle était lasse. Dès que M. Tilney s'en aperçut, il redoubla d'attention pour elle. Il exprima les craintes qu'il avait que cette promenade n'eût été nuisible à sa santé. Il la pressa de retourner à la maison avec sa fille, promettant de les suivre dans un quart d'heure. Elle s'en allait lorsque, rappelant Éléonore, il lui recommanda d'attendre son retour pour montrer à Miss Morland l'intérieur de l'abbaye. Celle-ci fut véritablement affligée de cette recommandation, qui était une seconde preuve du retard que le général mettait à satisfaire le plus vif de ses désirs.